Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Carpentras, la maison de vie de l'association Fight Aids, où l'on retrouve Malher et la Princesse Stéphanie. Bonne émission.
Merci Jean-Christophe, quelle jolie voix tu as, dis donc. Oh là là, change pas, hein. Ok, c'est un Jungle Fight exceptionnel pour les 6 ans de la maison de vie de Carpentras, bien sûr. La maison de vie, un lieu de partage, de réconfort, d'écoute pour les personnes vivant avec le VIH. Voilà, toute l'équipe de Fight Aids Monaco. Et là, Bruno Taillant n'est pas là exceptionnellement, il est en stage à Ibiza, un stage de pêche. Et Hervé Sbaikela, coordinateur à Fight Aids, salut.
Bonjour Malher, bonjour.
Salut Hervé, toujours la pêche. Franck Herman, journaliste, il est là.
Bonjour à tous, bon après-midi.
Très jolie cravate, c'est joli, c'est bien. C'est chabarré. Et bien sûr, l'émission qui est présidée et animée par la Princesse Stéphanie, qu'on salue. Oh, bonjour Stéphanie, bonjour Altesse.
Bonjour Malher.
Ça va bien?
Bien, oui. Et vous Malher?
Et oui, impeccable. On est très émus de revenir ici, on est tellement bien reçus à chaque fois. Le beau petit dîner, tout va bien, on a mangé de l'herbe ce midi, c'était magnifique, non je blague, c'était un bon repas, ça c'est vrai que c'est, l'accueil est à chaque fois top, top. Et d'ailleurs, la maison de vie est dirigée avec main de maître depuis 6 ans déjà, par l'excellent et merveilleux Didier Rouault.
Ouais.
Salut Didier.
J'ai l'impression d'être au cirque, maman.
Didier, est-ce que tout se passe bien à la maison de vie depuis 6 ans? Que s'est-il passé ces dernières semaines ici? Tout va bien? Il y a des changements?
Non, il n'y a pas de fondamentalement de changements. Les résidents viennent, passent leur séjour et repartent, on l'espère, avec une meilleure énergie, des ressources remobilisées.
Ben oui.
On arrive à notre 1012e séjour depuis l'ouverture de la maison de vie. Donc voilà.
Ben, ils sont plutôt bien parce qu'ils veulent tous revenir.
Hein. Ils veulent pour un grand nombre revenir, mais bon, voilà.
Moi, ouais, c'est ça, on peut pas. C'est toujours complet, je suppose.
Il y a des périodes où c'est moins complet que d'autres, mais sur la période du printemps et de l'été, on n'a aucun souci à remplir la maison.
D'accord.
Le millième a reçu quelque chose?
Non, pas du tout.
Il a reçu.
Son poids en fraise.
Oui, il y a de belles fraises.
Hein. Oui, les belles fraises.
Les fraises de Carpentras.
Elles sont fortes.
Spécifiquement de Carpentras.
Ouais, ouais.
Elles sont très bonnes.
Et c'est intéressant ce qu'on dit, c'est bien là.
C'était la maison de vie, n'empêche, ça profite d'avoir des belles.
Exactement. Fraises. Il y a beaucoup d'attentes, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est toujours, à un moment, tu m'avais dit, il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient à la maison de vie?
Non, la majorité des personnes qui viennent à la maison de vie ont plus, 50% ont plus de 50 ans. Mais quelquefois, on a des jeunes personnes de 20, 30 ans qui viennent récemment contaminées. Il faut savoir qu'un quart des contaminations en France concerne des jeunes et notamment des jeunes gays.
Des jeunes gays, ouais, tout à fait. Il y a un relâchement dans le... Dans la prévention, tu penses?
Je ne sais pas s'il y a un relâchement, mais la situation est un peu plus complexe qu'elle était il y a 10-15 ans. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas automatiquement que le préservatif qui est comme mode de prévention, mais il y a des préventions, ce qu'on dit, docteur Bruno Taillant l'expliquerait mieux que moi, des préventions combinées.
On va revenir avec la princesse Stéphanie. Alors, Stéphanie, ambassadrice de l'ONU SIDA, vous étiez le mercredi 8 juin pour une réunion de haut niveau dans la lutte contre le SIDA à New York.
Oui.
Et tous ceux qui ont assisté, parce que vous étiez dans la grande salle de l'ONU,
des Nations.
Tout le monde m'a dit, enfin surtout Nicolas qui était avec vous, et qui m'a dit, mais elle était hyper à l'aise avec les chefs d'État, avec Ban Ki-moon aussi, bien sûr.
Au micro aussi.
Ouais. Et vous êtes exprimé au nom de Monaco, de la Principauté et du Prince Albert, c'est ça?
Oui, j'étais là en tant que représentante de l'ONU SIDA et aussi en représentant mon pays. Mmh. Voilà, donc non, ça s'est très bien passé, c'était très très intéressant. Et on est arrivé finalement à avoir une résolution pour ces réunions de haut niveau. Non, c'est normal. C'est important, je pense que le monde entier se mobilise pour justement trouver des solutions pour combattre le VIH. Mais la difficulté reste quand même toute cette différence de culture et de législation dans chaque pays qui lui est propre. Donc c'est vrai que l'ONU fait le maximum pour réunir tout le monde et mettre tout le monde d'accord, mais après, dans l'application des choses, c'est difficile d'aller outre les traditions et les cultures.
Ouais.
Le but de cette réunion, c'était de pouvoir trouver une manière d'empêcher toute nouvelle contamination d'ici 2030. Est-ce que c'est un objectif atteignable?
Ben justement, je pense que c'est atteignable, c'est certain, si tout le monde y met de la bonne volonté et tout le monde a l'envie d'arriver à cet objectif. Mais justement, les problèmes qui se posaient lors de ces réunions, c'est des pays comme la Fédération de Russie, qui, eux, ne reconnaissent pas les articles concernant les personnes utilisant les drogues injectables, parce que pour eux, ce sont des criminels. Donc, ils ne veulent pas leur venir en aide, ni appliquer des programmes de distribution de seringues. Donc, déjà là, on a un blocage. Donc, ils vont peut-être faire zéro nouvelle contamination pour les autres populations à risque, mais pas pour eux. Ensuite, il y a tous les pays de conviction musulmane qui, eux, ne reconnaissent pas l'homosexualité. Et donc, tout ce qui concerne les homosexuels, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc déjà, ça fait déjà beaucoup de... Ouais. Par contre, eux vont peut-être faire les choses pour les drogues injectables. Donc, on arrive à un moment où voilà, dans chaque pays, il y a une spécificité, il y a des tabous. Même les pays comme l'Islande ont rejeté certains articles parce qu'eux ne veulent pas par rapport à leur culture, par rapport à leur tradition. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, c'est faisable, mais est-ce qu'on peut passer outre ces barrières culturelles et législatives dans chaque pays ? C'est juste la question. Donc c'est vrai que moi je reste pleine d'espoir, c'est sûr, comme toujours, mais je reste assez sceptique que le monde entier arrive à ça.
C'est compliqué. Et vous citiez, Stéphanie, en l'an 2000, Michel Sidibé, qui était à l'époque qui est directeur,
et qui toujours.
Directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui disait, voilà, la conspiration du silence règne, le sida, c'était la maladie des autres, le traitement était pour les riches et non pour les pauvres. C'est toujours aussi cher, un traitement, pour soigner le sida?
Bah, malheureusement, enfin, moins certainement qu'il y a un certain nombre d'années,
ouais.
Mais ça reste encore, c'est tout géré par les gros laboratoires et par les... C'est une question d'argent. C'est ça qui est un peu triste, mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on le voit dans des pays d'Afrique, les soins sont abordables, et grâce au programme de l'ONU-SIDA d'ailleurs. Parce que sans l'ONU-SIDA, tous les pays africains n'auraient pas de traitement. Ça, c'est certain. Mais bon, après, pour pouvoir rendre les traitements plus abordables pour tout le monde, pour les pays en voie de développement, il faut que les laboratoires fassent des efforts, c'est certain.
Ouais, c'est la question des génériques et que l'on retrouve aussi, par exemple, pour la prise en charge de l'hépatite C, où le traitement dans nos pays est excessivement cher et quand on passe par des génériques, on tombe à des centaines d'euros. Donc c'est le problème des licences et le problème, encore une fois, législatif, comme vous le disiez.
Ok, on en parle tout de suite, bien sûr, de la conférence que vous avez donnée à New York. Mais on est avec Élodie Périsy, pardon. Non, c'était marqué. Salut Élodie, tu vas bien?
Bonjour, oui.
Ouais.
Joli bouquet.
Qui est Élodie Périsy?
Élodie est connue, Élodie est chargée de communication.
Mais tout le monde la connaît.
Monaco, et s'occupe aussi des aides sociales, des aides financières pour les personnes vivant avec le VIH.
Élodie, alors deux événements à Monaco.
Oui.
Test in the City, c'est quand?
Le samedi 25 juin, de 10h à 18h, c'est à la plage du Larvoto, sur la promenade du Larvoto.
Voilà, et on peut se faire un test tout de suite?
C'est ça, c'est le dépistage du VIH avec la technique du TROD, donc qui dure vraiment...
Test rapide?
Oui, très rapide, il y a le résultat immédiatement. Ouais.
Si tu es à la plage ce jour-là, tu peux venir.
Je suis à la plage constamment, tu sais bien que je suis un ancien surfeur.
C'est vrai.
Il y a très très longtemps, hein. Mais quand il y avait des vagues au Larvoto.
Il a eu un physique de surfeur. Donc.
Oui, c'était... Comment ça
vient, ouais.
Voilà, mais là, ça s'est tassé un peu. Donc, c'est le 25 juin au Larvoto, toute la journée, hein?
Oui, de 10h à 18h.
Donc, venez, allez-y.
Ce sera avec les anges gardiens, la Croix-Rouge monégasque. Donc, c'est Fightez Monaco qui organise, mais nous avons aussi des partenaires qui viennent nous aider. Les anges gardiens, en l'occurrence, iront sur les plages, au-devant du public, pour parler à la fois de prévention et inviter les personnes à venir se faire dépister.
C'est important. Et aussi un autre rendez-vous le 16 juillet.
Oui,
toujours à Monaco, que se passe-t-il le 16 juillet?
Le grand gala d'été. Avec cette année, le spectacle, c'est Star 80.
Et je chante, ouais, c'est ça.
Voilà. Non, ma mère ne chantera pas. Je rassure tous, vous pouvez venir, il ne chantera pas.
Est-ce que tu as la liste des chanteurs qui sont
oui,
là?
Oui, il y a Sabrina, François Feldman, Début de soirée, Lio, ouais. Jean Schulte.
Bien connu.
Ah, oh, j'ai tous connu, mais tu rigoles ou quoi? C'est moi qui les ai lancés.
Tu nous refais pas encore un buzz, c'est possible.
Non. Ah, vous voulez faire un truc tout à l'heure, peut-être?
Ouais, ben, il y a Frédéric Platini qui est par là, il avait gagné l'autre fois.
Donc, ah, ben, on va peut-être demander là-bas à Biscotte. Salut, mon Biscotte, si tu peux nous préparer un petit blind test pour tout à l'heure. Ouais, on va se faire ça. Donc ça, c'est le 16 juillet ou ça, à Monaco?
Au Sporting de Monaco, oui.
D'accord.
À 20h.
Et il y a un dress code que tu oublies de préciser.
Oui, le dress code, donc c'est années 80, du coup.
Bah ouais, complètement, c'est bien. Et présenté par notre ami Toesca, les petits clous, là.
Bon, il va nous mettre une de ses chemises mythiques.
Hawaïenne, ouais. Ok les amis, on est en direct de la maison de ville de Carpentras. Un peu de pub tout de suite et on revient tout de suite.
Jungle Fight sur Radio Monaco.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, tout va bien. C'est un Jungle Fight absolument exceptionnel avec la salle qui s'anime maintenant pour les 6 ans de la maison de vie avec toute l'équipe de Fighteds Monaco, bien sûr, et notre cher ami Didier Rouault, directeur de la maison de vie. Didier, est-ce que tu vas changer des choses dans l'avenir ici? Est-ce que tu as des nouvelles idées?
Ah, mais y a tout...
On va parler tout de suite de yoga du rire.
Oui, mais on est en permanence d'évolution, tu sais.
Il faut
trouver des ateliers qui correspondent à ce que les résidents ont besoin.
Tu avais trouvé le tabac,
C'était autre chose, c'est une thématique qui est essentielle puisque les risques de décès liés au tabac sont plus importants, on augmente les risques de décès chez les personnes VIH. Mais en dehors des séjours thématiques tels que le tabac, on met en place des ateliers qui ont du sens. Et parmi ces ateliers qui ont du sens, le yoga du rire nous semblait.
C'est ton idée, ça?
Oui, oui. Ouais. Et puis j'ai eu la chance.
T'as trouvé ça où, chez Patrick Sébastien, la télé?
Non, pas du tout, pas du tout.
Non. Non, mais c'est vrai qu'il faut se marrer, c'est important.
Mais c'est plus que du rire, c'est aussi de permettre, cet atelier a lieu en début de séjour. Il est important qu'il ait lieu en début de séjour parce que très souvent les résidents viennent avec une certaine anxiété de savoir où ils se trouvent, avec qui ils vont partager leur séjour. Et Omblin permet, voilà, de faire cette mayonnaise.
Omblin, tu fais de la mayonnaise, sympa, comme présentation.
C'est bien. Ça me plaît.
Parce qu'il y a déjà... Donc, Omblin, où est-ce que tu as trouvé Omblin? T'as appelé le bon coin?
C'est ça.
Comment ça s'est passé?
C'est des rencontres, tu sais, la maison de vie, c'est l'ensemble des intervenants, c'est des rencontres. Quelquefois, les personnes frappent à la porte en disant, voilà. Quelquefois, c'est d'autres personnes qui nous recommandent, voilà. Et puis, on rencontre, on essaye. Si ça fonctionne, c'est super. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, voilà. Le principal, c'est que ça apporte quelque chose aux résidents.
Omblin, ça va? Et comment tu
dis? Bonjour.
Bonjour. Comment tu as découvert la maison de ville Carpentras et tout?
Alors, c'est une amie qui travaille ici, qui m'en a parlé. On mange ensemble. Elle m'a dit, Didier cherche. Il aimerait bien trouver quelqu'un qui fasse du yoga du rire. Voilà. Et moi, je suis chanteuse.
D'accord. C'est pour ça que je t'ai vu tout à l'heure. T'avais un physique
de chanteuse de rock, ouais.
Oui, j'y tiens.
Mais je chante en occitan, donc je fais plutôt du chant traditionnel occitan.
Oui, chante pas tout de suite alors. Faut attendre un peu. Hein.
D'accord, voilà. Dommage.
Si, tu vas nous faire. Tu sais, attends, tout de suite, tu vas nous faire un peu. Alors, comment ça se passe, ces ateliers du rire? Tu réunis les résidents et là?
Enfin, je suis partie du principe que je l'ai compris en chantant, qu'en fait, chanter, c'est pas évident, forcément, de chanter quand on est joyeux. Parce que des fois, je suis pas joyeuse quand je me rends compte que quand je chante, ça me met en joie. Donc en fait, c'est pas je chante parce que je suis gay, c'est je suis gay parce que je chante. Et pour le rire, finalement, c'est pareil. C'est, je ris pas forcément parce qu'il y a quelque chose de rigolo, mais c'est parce que je ris que ça va devenir rigolo, en fait. Donc j'inverse le processus.
Ah, d'accord.
Par expérience, je me suis rendu compte que ça a marché, que j'arrivais vraiment à me mettre en joie en chantant, même si j'en ai pas forcément envie.
Mais tu as un rire communicatif.
Et voilà. Et maintenant, j'ose rire. Et même, je me nourris du rire. Et je me suis rendu compte, par cette recherche-là sur le rire, que du coup, j'ai entreprise, que finalement, rire, on croit qu'on doit rire que parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui nous fait rire. Mais je peux aussi rire et entretenir mon rire. Et c'est...
D'un seul coup, tu te mets à rire toute seule dans la rue.
Ouais, je peux aussi. Si vraiment je vois que je suis trop sérieuse devant mon ordinateur depuis trop longtemps, je me dis, je m'arrêtais, que je riais un peu. Et alors, je ris. Mais au début, on a l'air un peu cloche. Hein.
Tu finis au commissariat, non?
Si tu veux, tu peux pas faire ça n'importe où, c'est sûr que c'est dans la rue. Mais tu peux faire ça chez toi tout seul, ou tu peux faire ça avec les gens autour de toi qui ont confiance en toi.
Dans un enterrement, ouais. C'est bien.
Ça dépend de qui.
Tu rigoles, mais moi, j'ai envie de rire dans les enterrements parce que quand je vois tout le monde.
C'est nerveux, ouais, ça.
Oui, t'as envie de sortir. Ouais.
Non. Donc, voilà. Là, c'est une invitation à oser rire, en fait, comme oser chanter, comme oser danser. C'est oser être soi, quelque part.
Et les résidents osent rire, donc, en début de séjour.
Au début.
Mais ils sont comme toi, ils rient sur n'importe quoi.
Non, au début, j'explique. Je dis, voilà, on va rire ensemble, mais personne ne va nous faire rire.
Bon.
C'était à nous, est-ce qu'on a envie de jouer le jeu, d'essayer de
rire. Au départ, ça demande un peu de se forcer parce que c'est pas évident pour tout le monde. Moi, j'avais une grand-mère qui riait beaucoup. Je suis d'une famille assez artiste.
On prend la vie de beaucoup. Côté, quoi.
Voilà. Ouais. Donc, c'est assez simple. Ouais. Mais on n'a pas forcément été dans des milieux familiaux où ça riait beaucoup. Donc, faut apprendre à rire, un peu comme à faire du vélo ou monter à un arbre. Ou je veux dire, si t'étais pas à la campagne.
Ouais. Moi, j'avais des parents tellement sinistres qui me faisaient rire, tu vois. C'est sinistre. Hein. C'était terrible. Hein. Stéphanie, qu'est-ce qui vous fait rire
Malaire déjà.
Ah bon? Ah non.
Non. Ah, surtout pas. D'ailleurs, je sens que c'est la dernière avec elle.
Non. Oui, bon, il faut s'adapter à l'humour de Malaire. C'est
voilà, d'accord.
Non, moi, je ne peux pas dire que les choses qui, particulièrement, qui me font rire, mais.
Moi, j'ai besoin de.
Et moi, je ris très facilement. J'arrive même à me faire rire toute seule. Il faut que je sois ridicule, quoi.
Ouais, c'est ça. Vous aussi, vous riez toute seule.
Ah oui, moi, une fois, je me suis pris une belle gamelle, toute seule, et j'étais morte de rire toute seule. J'ai dit, je préfère rigoler déjà de moi toute seule par terre qu'avant que les autres le fassent, quoi.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est important le rire.
Cet humour, quoi, cet humour aussi.
Mais c'est complètement vrai. Ce qu'elle dit, c'est qu'on. Pas forcé d'avoir un stéréotype de choses qui font rire. Moi, si elle me dit, oui, ça va te faire rire, il y a de grandes chances que je rigole pas.
Oui, exactement.
Que si tu me dis pas que ça va me faire rire, peut-être ça va me faire rire.
Ça doit être une surprise, le rire aussi.
Il faut que ça soit quelque chose de spontané.
Tout à fait, ouais.
Et je crois pas que les choses. Bah, moi, il y a quelque chose qui va me faire rire, et toi, ça va peut-être pas te faire rire du tout.
Donc. Des scènes de films qui me font rire aussi, de temps en temps.
Après.
Comme par exemple, dans le dernier camping qui va sortir, ils sont dans une voiture, et il y a Dubos qui dit aux autres, vous voulez pas chanter une chanson? Il y en a un qui dit, a cappella? Non, non, ici.
Et ça, ça te fait rire, toi.
Ah bah, ouais.
Tu vois.
C'est complètement con. Ça fait rire.
Mais ce qu'il y a de génial, c'est que quand t'as envie de rire, justement, tu peux te remémorer quelque chose qui t'a fait rire ou qui te fait rire.
Mais tu
l'utilises pour rire, quoi.
Oui, oui.
En fait, c'est d'oser rire et que ce soit pas que, justement, à des moments donnés où il y a quelque chose de rigolo, mais se dire, bah, tiens, si je riais, quoi. Alors,
et tu parles d'entretien du rire.
Moi, je parle du rire comme une pratique ou du chant aussi comme une pratique. C'est-à-dire, je chante pas que quand je suis joyeuse, parce qu'on va dire, le chant, c'est associé. Dans nos cultures, en tout cas, c'est associé à la joie. Il y a d'autres cultures où ils chantent pour des cérémonies de deuil, où le chant est utilisé. Nous, souvent, le chant, c'est quand même vraiment associé au rire, à la joie. Et le rire, c'est pareil, c'est associé à la limite à l'humour. Comment je peux rire sans me moquer aussi? Parce que rire en France, beaucoup souvent je ris de moi parce que je me moque de moi ou je me moque des autres. Mais je peux aussi rire de l'autre et c'est ça qu'on apprend dans les ateliers. C'est dire on va rire ensemble de nous, dans le cœur, quoi, ouvert, par amour, on va rire. Venez, on rit. Et si on riait comme des enfants, en fait?
Et combien de temps ça dure, l'atelier?
Ça dure 2 heures.
2 heures. Pendant 2 heures, vous riez?
On peut pas. Non, on peut pas parce qu'on a hyper mal aux abdos et on n'en peut plus après. Non, il faut. Mais on fait des moments de pause où on parle, où on se.
Vous pleurez alors à ce moment-là?
On pourrait, hein. Ouais. Ça, aussi pleurer, ça dégage, hein. C'est aussi. Bah, moi, j'aime mieux les ateliers de rire, mais on pourrait bien faire des ateliers de larmes et se dire, allez, venez, on pleure pendant 2 heures.
Mais moi, je peux rire aux larmes, moi.
Apparemment, ça relâche, parce que quelqu'un tout à l'heure nous a témoigné après l'atelier d'avoir pu justement pleurer.
Ouais.
De dire, bon, ben.
Quand t'as vu.
Ça lâche, quoi.
Ouais. Et s'est mise à pleurer quand t'as vu.
Non, parce que.
Non, parce que t'étais à côté de lui, c'est toi qui l'as vu.
Non, c'est une ouverture, émotionnellement, c'est une ouverture, quoi. Que pleurer, rire, tout ça, c'est des dégagements émotionnels. On lâche et obligatoirement ça harmonise à l'intérieur, ça apaise, ça transforme. C'est clair que ça guérit.
Si tu vois quelqu'un qui rit pas, qu'est-ce que tu lui dis?
Qui rit pas, tu veux dire pendant l'atelier?
Ouais.
Eh ben, je lui dis rien. Il a le droit de pas rire. Je veux dire, c'est pas, il est pas obligé. Mais
ça dérange pas.
Pas du tout.
Il partage le rire des autres.
Tu vois, il peut y avoir de l'inhibition aussi d'avoir envie de voir qu'est-ce que c'est cet atelier. C'est normal aussi d'avoir de la méfiance un peu.
Didier,
c'est aussi un moment fort parce que rire ensemble, c'est partager ensemble.
Ouais.
Et donc c'est la raison pour laquelle on a mis cet atelier en début de séjour parce qu'il y a besoin que le groupe se forme, se lie et ça fonctionne merveilleusement bien, je veux dire. Vraiment, il y a peut-être quelquefois un peu d'inhibition, mais cette inhibition, elle est levée justement par les méthodes que tu mets en place sur cet atelier.
Moi, je me régale, hein, vraiment. C'est l'atelier à la maison de vie, là, c'est du bonheur, vraiment.
D'accord.
Je me retrouve avec un public et des personnes, on est 10, 15, avec une générosité, un courage, parce qu'il faut du courage, quoi, un courage d'offrir, de s'offrir.
Tu veux dire que tu chantais en occitan, tu veux nous faire un petit refrain, vite fait, là? Vas-y.
Ah oui, je vais vous faire un petit refrain. Alors, c'est la dernière chose qu'on a chanté l'autre fois avec les personnes qui étaient là. Ça vous dit dit de chanter avec moi.
Oui, c'est, oui, d'accord, ça, on y va, c'est parti.
Viens.
Non, restez là, on les entend,
Moi, je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Moi, je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi.
Voilà, merci Omblin.
Vous êtes unique.
Merci Omblin, merci. Je vous rappelle que vous êtes sur France Musique, en direct merci, de la maison de vie, les amis. Restez avec nous, bien sûr.
Jungle Fight sur Radio Monaco, avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Ouais, très belle soirée les amis, puisque nous sommes en direct de la maison de vie de Carpentras pour fêter les 6 ans avec le directeur. Salut mon cher Didier.
Salut Malève, oui
Didier,
déjà 6 ans.
Ouais, déjà 6 ans. Ça fait 6 ans que tu étais là au tout début toi.
Oui,
hein,
tout
t'as
à fait.
Alain, ça va, tu tiens le coup,
oui, mais
c'est pas facile ce que tu fais.
Regarde la mine qu'il a.
C'est une superbe aventure.
Il est bronzé, on a presque tous envie de prendre ta succession ici.
Prendre ma succession, je sais pas ma place peut-être.
Ouais, enfin pour décompresser, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il finit en Thaïlande, à Bangkok. Hein.
Avec et, Malère.
Eh ben voilà, on a rendez-vous là, au mois de juillet, à Bangkok, avec peut-être la princesse Stéphanie qui passera nous voir. Voilà, et donc ceci dit, on voulait. Mon cher Didier, est-ce qu'il y a du nouveau dans les traitements sur le VIH? Ce sera plus facile dorénavant?
Il y a des choses qui sont dans le collimateur des recherches, mais des recherches appliquées, qui, je pense, vont avoir une incidence importante, entre guillemets, une mini-révolution pour la qualité de vie des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des décès sur des prises mensuelles, voire des prises ou des injections trimestrielles.
Quoi, un seul cachet par mois?
Un seul cachet par mois ou par trimestre, et aussi des implants sous-cutanés, semestriels, et ça va changer beaucoup de choses.
Ah bah oui,
ça va changer beaucoup de choses pour les personnes VIH, et ça, je vous dis pas, c'est pas à l'échelle de 10 ans, c'est en recherche appliquée et au congrès à Fravi d'une part,
donc
à Bruxelles,
moins d'effets secondaires, c'est ça.
Mais de toute façon, on va vers des traitements c'est dommage que le docteur Bruno Taillant soit pas là. On va aussi vers l'allègement thérapeutique, c'est-à-dire que les effets secondaires, ils sont liés aussi sur la toxicité et donc il faut traiter tôt, fort dès le départ pour baisser la charge virale. Mais après, lorsque la charge virale est baissée, on peut être sur un traitement standard beaucoup plus allégé. Et là, c'est fonction de l'histoire du médical de chacun et c'est fonction aussi des possibilités de chacun.
Oui, Franck Herman.
Alors justement, Malère, effectivement, c'est l'acteur Charlie Sheen. Vous savez que l'an dernier, cet acteur qui joue dans Mon Oncle Charlie, une série américaine, a annoncé sa séropositivité et vient d'annoncer justement dans la presse, il y a quelques jours maintenant, qu'il testait un nouveau protocole aux États-Unis, un protocole surveillé par l'administration américaine, et comme le disait Didier, c'est une pilule par jour. Bon, il donne pas le nom du traitement, mais apparemment disparition des effets secondaires, maux de ventre, migraines. Ça reste tout de même lié aussi à une hygiène de vie irréprochable. D'ailleurs, Charlie Sheen nous explique, depuis je fais de l'exercice, je me suis mis au régime, je ne prends plus de cuite. Bon, je me suis juste réveillé un jour en me disant que je méritais mieux.
Ben, voilà. Il peut venir à la maison de vie. Hein,
ouais, ouais. Mais à mon avis,
il est bien. Je pense pas. Laisse-le où il est.
Ouais. Stéphanie. À mon avis, il a une belle vie. Il a profité de la vie, Charlie Sheen, pour ceux qui le connaissent.
Ah oui.
Et au même moment, il y a le préservatif, et ça c'est bien indéchirable.
Bah, on y revient.
C'est pour toi Hervé. Justement, ils l'ont testé sur des gens, des personnes qui ont testé plusieurs positions très compliquées.
Oui.
C'est pour ça qu'on t'en parle. Et paraît-il, il est indéchirable. C'est issu de la Formule 1. C'est-à-dire qu'ils sont aperçus que les pneus de Formule 1 étaient résistants.
Ils ont utilisé le même latex.
Donc c'est indéchirable. Ça sent un peu brûlé, mais bon.
C'est bien, parce que c'est effectivement bien de pouvoir permettre d'avoir un outil qui soit fiable. Mais je rappelle,
c'est un outil.
Non, c'est pas en bois. Hein, c'est voilà.
Donc ça permet, puisque tu dis ça, ça permet de rappeler qu'il est important d'utiliser avec un préservatif en latex, même celui qui est indéchirable, d'utiliser du lubrifiant à base d'eau.
Tout à fait.
Pour toute pénétration, il est préférable de rajouter du lubrifiant à base d'eau.
Voilà, chers amis, très bien. Donc ça, c'est en vente en septembre, c'est dommage, ça aurait été mieux au début de l'été, quoi.
Mais il sera un petit peu plus cher.
20 euros les 12. Donc faut bien choisir son partenaire. Oui, Stéphanie.
Faut pas rater son coup.
Faut pas. Écoute, ça sent l'été, hein. Ça sent les vacances, là.
C'est l'ambiance maison.
Non, mais on a eu tellement d'accidents de capote depuis un moment, depuis qu'on fait cette émission.
Il y a eu des sorties de route, quoi.
Il a perdu une roue.
La plupart du temps, des accidents de capote, c'est surtout une mauvaise utilisation du préservatif.
Alors, il y a ça.
Bah, pas forcément.
Ça peut, bien entendu, tout accident peut arriver, mais les statistiques prouvent que les accidents de préservatif sont souvent dus à une mauvaise utilisation.
C'est-à-dire, pas bien compliqué, hein.
L'émotion, le fait de ceux qui ne les utilisent pas régulièrement.
Eh ben ouais, c'est quand même facile. Il suffit d'appuyer au-dessus pour virer l'air et de ne pas.
Enfin, il faut pas faire qu'appuyer au-dessus.
Ah ben t'appuies où tu veux. Hein. Fais comme tu veux. Ça c'est ta vie.
Par exemple, Malheur, il faut pas.
Ceci ne nous regarde pas.
Par exemple, Malheur, faut pas ouvrir le CH avec les dents.
Alors ça, oui, beaucoup le font. Exactement. Ça sent le vécu,
mais bon,
ça.
Fait des trous.
Ouais, ça sent pas bon. C'est de l'élastique. On a du mal à le digérer après. C'est vrai, c'est pas bête. Voilà. Après, ceci est dit.
Très bien.
Mon cher Didier, il y a Sylvette qui nous a rejoint. Bonjour, Sylvette. Qui est Sylvette?
Sylvette vient pour son deuxième séjour, puisqu'elle était là l'année dernière. Voilà. Pour mon premier séjour. À l'issue de ce premier séjour, elle a mis en place beaucoup de choses. À cette occasion, à son retour chez elle, elle va peut-être l'évoquer. Et puis, elle revient pour un deuxième séjour pour consolider ce qu'elle a mis en place.
Alors, on peut savoir ce qu'elle a mis en place? C'est quoi?
Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame. Bonjour.
Alors,
comment tu t'appelles? Sylvette. D'accord. Bonjour Sylvette.
Ça a été dit déjà.
Mais non, ça, c'est ce que je...
N'hésite pas, si t'embêtes, tu peux y aller. C'est bon.
Qu'est-ce que tu as mis en place, Sylvette?
Eh bien déjà, ça m'a permis de comprendre le mal-être que j'avais en moi de la séropositivité, que je m'imaginais pas en souffrir autant intérieurement. Mmh. Et donc, petit à petit, j'ai essayé justement d'apaiser tout ça par rapport à des thérapies. Et c'est la maison de vie qui m'a amené justement à me soigner. Parce qu'on croit qu'on est séropositif, on le sait, mais on ne sait pas qu'on est malade aussi. Moralement, parce qu'on en souffre intérieurement, chose que...
Ça fait combien de temps que tu es séropositive, Sylvette?
25 ans.
Ah, 25 ans.
26, pardon.
D'accord.
Et vous êtes venue à la maison de vie comment?
Je suis venue à la maison de vie parce que je n'avais plus de force, je n'arrivais plus à supporter le mal-être par rapport à cette maladie, parce qu'on vit caché. Et donc, il n'y a qu'ici que j'ai pu me ressourcer un peu, parce qu'ici, je peux être moi-même. Ça fait énormément de bien et on se sent exister.
Et donc tu parles avec les autres, c'est ça qu'est le Didier. Sylvette a dit, elle a mis en place beaucoup de choses.
Le premier séjour, Sylvette était beaucoup dans l'émotion. Elle lâchait beaucoup de choses et puis peut-être que ce qu'elle a pris à la maison de vie lui a donné suffisamment de force pour mettre en place, j'allais dire, un accompagnement psychologique, thérapeutique, des soutiens extérieurs. Non.
Ça nous permet de prendre conscience que déjà on a besoin d'être aidé. Chose qu'on a du mal à se l'avouer. Et ça m'a permis de prendre pas mal de directives en rentrant chez moi pour me faire aider justement à la suite de la maison de vie, style des thérapies, des ateliers que j'ai connus ici et que j'ai essayé de retrouver. Donc,
et là, c'est ton deuxième séjour. Mais tu vas être malheureuse encore quand tu vas quitter la maison de vie. Comment tu vas faire?
Non.
Là, ça va maintenant.
Je repars toujours très enrichie par rapport à toutes les paroles et toutes les personnes qui nous entourent. Nous aident énormément justement pour ça. Et ça nous permet justement d'avoir la joie de se dire que on peut revenir dès qu'on a une chute, une baisse. Enfin, on sait qu'on est accueilli agréablement ici et qu'on a toujours un lieu pour se ressourcer.
C'est vrai, Didier, il y a toujours une place quand on appelle comme ça.
C'est aussi un lieu pour consolider ce que les personnes ont mis en place. C'est essentiel parce que quelle énergie déployer pour, j'allais dire, se réestimer, repartir dans la vie. Et quelquefois, ça ne se fait pas lors d'un seul séjour. Quelquefois, on a vu des résidents, c'est 2, 3, 4 séjours. Et après, on n'a plus besoin, je veux dire, d'intervenir. Les personnes sont bien installées, n'ont plus besoin de nous. Notre objectif, c'est qu'elles n'aient plus besoin de nous. Mais si elles ont besoin de nous, elles trouvent une place à la maison.
Ok, merci Sylvette. Tout va
merci
bien.
À vous.
On va accueillir l'arbitre. Tu restes avec nous. Bravo. Et dans le direct de la maison de vie de Carpentras, les amis. Tout de suite, un peu de musique, on revient. À tout de suite.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie.
Et oui, les amis, toujours un Jungle Fight exceptionnel. En direct de la maison de vie de Carpentras avec toute l'équipe de Fight Set Monaco. Et bien sûr, la princesse Stéphanie.
Ouais.
Ah, Stéphanie, vous étiez au siège de l'ONU à New York ce mercredi 8 juin pour une réunion de haut niveau dans la lutte contre le sida. Stéphanie, vous avez dit la conspiration du silence faiblit parce que le combat est mené haut et fort, la honte recule, les langues se délient, les cœurs s'ouvrent. Ça a dû toucher pas mal de personnes, vous pensez, là-bas? Des notables de l'ONU, des chefs d'État?
J'espère.
Parce que vous les avez eus après, vous avez discuté avec eux après?
Hein? Non.
Non, pas du tout?
Non, avec tous les gens qui étaient assis, les représentants de tous les pays, non, j'ai pas discuté avec eux. Et en plus,
émission de radio,
j'avais les
après,
lunettes, donc j'ai pas pu voir leur tête. Donc, ouais. j'espère. C'est le but, je suis pas là pour dire des choses qui n'allaient pas les toucher ou les faire réfléchir ou réagir.
La honte recule et en même temps, les gens n'osent pas dire actuellement qu'ils sont séropositifs dans une entreprise ou ailleurs. Ils peuvent pas le dire.
Non, c'est peut-être un message d'espoir que ça change, mais c'est vrai que ça, c'est mon combat, quoi, la discrimination, la stigmatisation. C'est ce qui me révolte le plus dans toute cette lutte contre le sida. Et je crois que ça, c'est le plus gros combat, plus que d'obtenir des traitements pour tout le monde. Parce que même toutes ces personnes-là, si elles sont sous traitement, elles auront toujours cette solitude et le regard des autres qui va les ronger petit à petit. Donc je crois que c'est ça le plus important. Certes, c'est important de mettre tout le monde, mais bon, si c'est pour vivre mal, ça c'est séropositivité. Voilà quoi.
Et on sait qu'une personne discriminée ne prendra peut-être pas son traitement, justement.
Ben, voilà, et puis surtout dans des pays où déjà c'est pas facile de vivre et en plus d'être séropositif, je veux dire, bon, qu'il y ait de la discrimination encore ici dans nos pays, je dis développés entre guillemets, parce que sur certaines choses on n'est vraiment pas développé du tout. Il y a de la discrimination ici, mais qui est à base de stupidité, de bêtises humaines.
Les vieux clichés, c'est...
Non, mais c'est juste de la bêtise, c'est de ne pas vouloir voir l'information, d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est juste la stupidité. Après, dans d'autres pays, où c'est pas pareil, quoi. Ils risquent leur vie, que ce soit les homosexuels ou les séropositifs, ou des femmes, si elles parlent de leur homosexualité, risquent leur vie, quoi. Donc là, on est dans des choses qui me paraissent complètement archaïques, et on n'est plus au Moyen-Âge, quoi.
Donc, on l'a bien vu à Orlando récemment, hein.
Ouais. Ça a été un des déterminants pour la création de la maison de vie, votre combat contre la discrimination.
Mais oui, parce que j'estime, je suis quelqu'un dans mon caractère, je ne supporte pas l'injustice et j'estime qu'il n'y a pas une souffrance qui vaut mieux qu'une autre ou qui vaut plus la peine qu'on s'arrête dessus. Un être, il souffre de la même manière. Et qu'on fasse des différences avec la souffrance par rapport à une maladie, je trouve ça juste inhumain et c'est sans intérêt. On va plaindre quelqu'un qui va annoncer son cancer dans sa famille, il va annoncer sa séropositivité, on va le mettre dehors avec sa valise, quoi. Donc c'est juste des choses que je ne comprends pas. D'où mon combat pour la maison de vie. Je me suis battue au effort pour la créer et j'en suis ravie à chaque instant. Et j'espère que ça donnera l'idée à d'autres associations ou d'autres entités de refaire la même chose dans leur région, parce que je crois qu'on en a besoin d'autres. Et nous, on a fait nos preuves. C'est sûr qu'on nous attendait au tournant. Hein. Mais ça n'avait jamais été fait. On est arrivé avec un concept complètement fou pour la plupart des gens. Et on a prouvé que ça marche. Et que ça marche bien et que c'est nécessaire. Donc,
Et chaque fois que vous venez, tout à l'heure encore, vous avez eu des paroles qui confirment que vous avez fait le bon choix par rapport aux résidents que vous rencontrez.
Oui, et puis ça, c'est, de toute façon, j'ai jamais douté que j'ai fait le bon choix. Ça, c'est certain. Après, bon, ça dure bien. On a eu une chance énorme que Didier nous suive. Je pense que sans Didier à la tête de cette maison, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas le succès qu'on a et toute l'équipe qu'il a su mettre en place. Et je crois que ça, même si la pierre est belle, le jardin est beau, les meubles sont beaux, sans quelqu'un comme Didier, je pense que le projet serait tombé à l'eau très vite.
Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir. Ouais. Didier Rouault, les amis, directeur de la maison de vie.
Quelqu'un a dit tout à l'heure, en parlant de Didier et l'équipe de la maison de vie, ils ont toujours la parole juste.
Ah, c'est beau. Je vais vous laisser, les amis. Hein, c'est que du beau, là. Dis donc, tu me disais, mon cher Didier, tout à l'heure, que, d'accord, on ne meurt plus du sida, mais le problème, c'est le vieillissement.
L'une des problématiques va être le vieillissement dans les années à venir, hein, sans aucun doute, et avec les pathologies associées au vieillissement. On voit de plus en plus de personnes. Là, notre public, on a de 50% de plus de 50 ans. Donc, et pas mal de plus de 60 ans. Donc, dans quelques années, on va avoir une majorité de personnes avec 25, 30 ans, 35 ans avec le VIH.
Ils seront dépendants.
Et qui développeront, parce qu'ils développeront probablement des pathologies associées au vieillissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'ils se prennent en charge bien en amont. D'où l'intérêt de tous les ateliers qu'on met en place à la maison de vie, qui sont des ateliers, j'allais dire, d'hygiène de vie. C'est d'une simplicité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une alimentation saine, équilibrée, à partir du moment où vous avez des activités physiques, à partir du moment où vous avez une vie sociale, une vie affective, une vie amoureuse. Combien de personnes VIH s'interdisent une vie sexuelle et amoureuse? Mais c'est elles qui s'interdisent. Il y a une sorte de barrière là. Et c'est essentiel qu'elles se disent « Moi, je vais me prendre en charge et je vais prendre en charge ma santé. » Quand ce déclic est fait, je suis persuadé qu'elles pourront vivre longtemps, voire très longtemps.
Waouh, merci mon cher. Didier, tu nous présentes Larbi. Larbi, c'est son premier séjour à la maison de vie. Salut, tu viens de Marseille?
Oui, bonjour.
C'est un toubib de Marseille qui t'a envoyé ici?
Non, pas du tout. Bonjour tout le monde.
Salut Larbi, bonjour.
Stéphanie, bonjour Didier, bonjour Hervé. Non, j'ai pris l'initiative moi-même. Je connaissais l'association parce que je lis la presse, donc depuis les débuts, il y a à peu près 4 ans.
T'as lu un article, t'es tombé sur un article,
voilà,
à la maison de vie.
Sûrement de remake, de quelque chose comme ça. Et en fin de compte, j'ai deux grands événements avec Fight AIDS Monaco. Donc j'ai sollicité deux fois Fight AIDS Monaco. La première, c'était pour un accompagnement financier pour une reconversion professionnelle. Voilà. Parce que j'étais un petit peu embêté, car personne, par rapport à la spécificité de ce que je voulais faire de la naturopathie, personne ne m'accompagnait. C'est-à-dire que les structures en France, ben, il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas de financement.
Pas d'aide, rien du tout, pour l'emploi, rien que d'aide.
Rien du tout. D'accord. Donc au début, c'était bien sûr, on s'était bien lancé, mais ensuite, à la fin, ben, c'était pas possible. À deux semaines, justement, de la rentrée scolaire, j'ai sollicité Fight AIDS Monaco et ils ont eu le bonheur de partager, on va dire, l'expérience avec moi.
C'est-à-dire
et de me soutenir.
C'est une formation de naturopathe, c'est ça,
oui. J'ai fait une très longue reconversion et je suis du naturopathe.
C'est ça, alimentation, bio, etc.
Voilà, la phytothérapie, l'aromathérapie, le bien-être, etc.
Formation longue et difficile. Moi.
Longue et difficile parce que parallèlement, bah, malheureusement, j'avais un traitement qui ne tenait plus. Donc ça a été très 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 difficile, mais très enrichissant. Et c'est là que j'ai, à la fin de ma formation, j'ai été diplômé.
Ouais.
Bah, la santé est tombée au plus bas. Resollicitation à Fight AIDS Monaco. Donc j'ai contacté Didier et j'ai fait un séjour en fin de mois de janvier pendant deux semaines, en 2016.
Et ça a été profitable?
Énormément. C'est difficile de trouver les mots. Je pense qu'il y a eu tellement de témoignages, de remerciements, et qu'aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas comment on remercie. La princesse Stéphanie, vous remerciez-vous. C'est vrai que la maison de vie, le mot vie, c'est vivre. Et c'est vrai que, je reprends les mots de la princesse, on n'arrive pas à vivre notre séropositivité à l'extérieur parce qu'il y a la peur, il y a la culpabilité quelquefois parce qu'on pose un regard sur nous, on nous juge, on pense qu'on a fauté quelque part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as ça, c'est que tu as merdé quelque part. Ouais. C'est de ta faute. Et on arrive ici dans les maisons de vie, et ben non, ben personne ne nous juge. Il y a de la bienveillance, il y a un vrai partage, il y a de l'amour. Quelquefois, on se dit, ben c'est quoi l'amour? Comment on définit l'amour aujourd'hui? Ben l'amour, il est là, il est dans la maison de vie, où on se sent soi-même. Moi, j'ai toujours pris mon traitement en cachette.
Dis donc, je voulais juste une question comme ça. Il n'y a pas de traitement bio pour se soigner du sida? Ça n'existe pas, des traitements à base uniforme?
Non,
enfin, je pose une question comme ça, on ne sait jamais.
À moins que tu me ramènes d'Asie.
Dis-moi, je te ramène tout ce que tu veux de là-bas. Toutes les molécules qui existent, c'est en partie, ça part des plantes, non, au départ, non? Je ne pense pas, ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux dire là?
Rendors-toi malheur.
Non, mais c'est évident que les traitements ont des effets négatifs quand même sur le corps. Et surtout des traitements en long terme, quand les gens prennent un traitement antibiotique sur 15 jours, 3 semaines, voilà. Mais quand vous prenez un traitement VIH, surtout les premiers traitements, là,
les
plus lourds. Mais quand vous les prenez les 10, 15, 20, 30, 40 ans, c'est sûr que ça sera une incidence. Voilà.
On est en direct de la maison de vie. J'aurais quand même qu'on applaudisse tous nos amis qui étaient avec nous tout de suite. Restez avec nous. On aura Pascal Le Motard dans quelques instants, cher ami. Merci Pascal.
Merci Larbi.
Merci Larry. Merci pour ces bonnes paroles.
Jungle Fight sur Radio Monaco avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie.
Et oui les amis, pour les 6 ans de la maison de vie de Carpentras, voilà, on est tous là, toute l'équipe de Fighting Monaco est là. Didier Rouault, Didier, je crois que tu es le bienfaiteur ici. À chaque fois que les gens parlent de toi, on se dit heureusement qu'il est là pour tenir. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Quelquefois, est-ce que tu as eu envie, tu dis c'est tout. Trop compliqué.
Mais je
tu as une équipe formidable.
Voilà, je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe formidable de permanents qui apportent leurs compétences et je veux dire leur joie de vivre. J'ai toute l'équipe des intervenants qui apportent aussi leurs compétences. Voilà, je suis pas seul. Je fais que coordonner un travail collectif.
Et il va prendre une journée de vacances de temps en temps par semaine.
Oui, tous les jours. Oui. Et puis, faut savoir que les résidents nous apportent beaucoup de choses. C'est une relation d'échange dans la relation d'aide. La princesse le dirait, ils me font progresser chaque jour par leur expérience de vie.
D'accord. Et
c'est important.
Et tu modifies après ton message auprès des résidents quand,
Quel message?
Le message de tout ce que tu as appris avec eux.
Ça, oui, il nous arrive lors des réunions de mi-séjour d'évoquer avec les accompagnants que c'est pas que dans un sens, c'est une relation. Et quand on dit une relation d'aide, c'est une relation à deux ou à plusieurs.
Et merci mon cher Didier, il est là, Francis Adolphe, maire de Carpentras.
Bonjour à toutes et à tous.
Inévitable, Francis, on t'a à chaque fois. Merci de vous déplacer à la maison de vie pour ce grand rendez-vous tous les ans. Est-ce que vous revenez dans l'année? Peut-être pas, non?
Ah si, ça m'arrive bien sûr, il y a
avec la Didier,
galette, ouais. Et puis à chaque occasion où Didier nous invite, on est présent.
Tout à fait.
Je voulais vous demander, Francis, vous avez accepté tout de suite quand on vous a dit, voilà, on va faire une maison de vie avec la princesse Stéphanie. Ce seront des gens touchés par le VIH.
Bien sûr, le projet était au niveau de la solidarité et de à destination des publics touchés par le VIH très très porteur, parce qu'on a un projet, comme ça s'appelle la maison, c'est une maison de vie.
Oui.
C'est une maison de où on se ressource et on participe à la vie de Carpentras. Et c'est pour ça que nous, dans nos missions de solidarité, on était vraiment ravis d'être présents.
Avec la princesse Stéphanie, qui est ravie de recevoir le maire de Carpentras.
Mais oui, comme d'habitude, comme toujours.
Vous avez des bons retours, une satisfaction auprès de vos élus à la mairie, il n'y a pas de...
On n'a que des bons retours. Est-ce qu'on a des bons retours? On n'a que des bons retours et ça fait... Il y a un petit tissu associatif qui participe aussi. Il y a des gens qui ont été embauchés, il faut le dire, parce que ça, c'est important aussi.
Embauchés par?
Par la maison de vie, qui travaille ici, et des gens de Carpentras, et puis qui savent parler de la maison de vie merveilleusement bien, c'est un coin intéressant. Les retours qu'on peut faire, par exemple, je voulais parler un petit peu en cette période estivale, de tous les spectacles. Parce que ça y est, on y rentre là. Et puis,
Carpentras,
c'est une ville où on aime beaucoup les spectacles. Et on a commencé avec le Noël Insolite, où les familles, on les a fait participer à ces spectacles. 150 spectacles dehors, en déambulation. Mm-hmm. Et on a fait un partenariat avec la maison de vie. Et avec le bus qui était là, et plein de choses.
Et on y va, on participe.
Et on pourrait le faire pour l'été aussi, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer cet été. Et on est très ouvert à faire tous les partenariats qui permettent aussi de participer à la vie.
Ouais. Et les résidences sont disponibles pour le 21 juin, pour la fête de la musique. Je ne sais pas ce qui est prévu mardi prochain.
On a même augmenté le nombre de places, parce qu'il y a tellement de spectacles. Il faut quand même que ce ne soit pas la cacophonie, la fête de la musique. C'est quand même la fête de la musique.
Ouais, c'est mardi.
On ne peut pas quand même faire des musiques tous les maîtres. Voilà.
Mais c'est difficile de plaire à tout le monde en même temps.
Donc on planifie, bien sûr, à tous ceux qui veulent venir, puis on complémente dans les places qui sont vides par des musiciens. Et là, par exemple, on a la place dite des Quinconces, qui va être, c'est la place en rentrant par la rue Porte de Mazan, qui va pour la première fois être bénéficié d'un plateau. Et en centre-ville, il y a des moult animations et on essaie de cadrer tout ça, cette programmation. Il y aura du monde, bien sûr, partout.
Alors, monsieur le maire, l'an dernier, on parlait d'infrastructures supplémentaires. Une ligne de bus, un arrêt de bus, pas très loin?
Oui, alors la ligne de bus, on l'a faite. C'est pas de cette année, ça date maintenant de presque 3 ans. Et ça fonctionne juste à côté. L'arrêt de bus est juste à côté.
Tu veux prendre le bus? Tu veux venir ici?
Ah bah pour rentrer, oui, à Monaco. Vous n'avez pas des bus Macron?
Non, mais c'est possible.
C'est possible.
Tout est possible en transport en commun, puisque là, en prenant le bus, vous allez à la gare de Carpentras. Il y a une gare à Carpentras. Et de la gare de Carpentras...
Il y a
une gare à Carpentras.
Oui.
Et vous pouvez aller jusqu'à Marseille, par exemple, et puis après, vous débrouillez.
Oui. C'est...
Via Avignon, bien sûr.
Et c'est facile de se faire dépister à Carpentras.
Bien sûr.
C'est gratuit, anonyme.
Il y a le CDAG à l'hôpital.
Bien sûr, tout à fait. Et puis, on va aller au-delà. Aujourd'hui, on a créé l'atelier Santé-Ville. Et ça, c'est important.
C'est quoi, ça? C'est Santé-Ville. Ça s'appelle Santé-Ville, c'est ça?
Oui, en fait, c'est à destination de tous les publics qui ne veulent même pas aller voir un médecin. Parce que c'est même pas un blocage financier, parfois. parfois, c'est le tabou d'aller voir un médecin. Et là, on a quelqu'un qui va essayer d'orienter ces publics-là en désacralisant et en désangoissant aussi, parce que des fois, on a peut-être peur justement qu'il se passe quelque chose. Et justement, de toute façon,
et les médecins sont OK là-dessus.
Mais c'est porté par la ville, par l'intercommunalité, par l'hôpital. Ce qui est rare. En général, c'est porté par une commune, mais là, c'est porté par l'hôpital.
On va pouvoir parler de tout, de la prévention du sida, la sexualité, des infections sexuellement transmissibles.
On n'a pas parlé avec la princesse Stéphanie, mais j'en ai parlé avec Didier à l'instant. Ça peut être l'objet, justement, d'une de ces missions.
Oui. Justement, ces populations-là, qui sont très souvent précaires, qui sont très souvent éloignées du soin, ont des difficultés d'évoquer toutes les problématiques de santé sexuelle. Moi, il me semble que c'est quand même une dimension que les ateliers Santé-Ville devraient prendre en compte.
Toi qui as une bonne santé sexuelle, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, je pense que c'est très bien. Donc, quand vous parlez de ce public qui a cette difficulté-là, ça veut dire que vous allez au-devant, comment vous les rencontrez ? Est-ce que c'est l'hôpital qui, justement, les oriente vers ce centre de santé ?
Ça veut dire qu'il y a une personne qui est dédiée à ça, qui va essayer de déambuler ou bien de voir les problèmes, ou du bouche à oreille, ou par des dossiers.
D'accord, donc au contact.
Voilà, au contact, c'est directement. Et on fera passer, peut-être qu'on pourra, par la maison de vie, faire passer un petit mot au directeur d'hôpital qui sera ravi.
Volontiers. Voilà. Tout en sachant que sur les contaminations actuelles, sur les 6000 contaminations, il y a une partie de la population.
Par les 6000 contaminations en France.
Oui, en France par an. Il y a un quart qui concerne les hommes hétérosexuels qui ont beaucoup, beaucoup de mal à se faire dépister, à se faire prendre en charge et avoir un suivi. Voilà. On s'intéresse très souvent aux jeunes. Certes, les jeunes, c'est hyper important, mais il y a d'autres populations qui sont dans des situations de prise de risque. Et peut-être dans l'information personnes qui serait âgées, diffusée dans les ateliers Santé-Ville, on peut les amener sur des dépistages rapides, etc., etc. Au moins de leur apporter l'information, parce que je ne suis pas sûr qu'elles aient toute l'information. Elles ont l'impression quelquefois d'être en dehors de la situation de prise de risque, ce qui n'est pas vrai.
On peut en profiter pour rappeler qu'à Monaco, nous allons faire un test in the city le 25 juin. Donc dans la ville, nous
devant les plages du
Darbreton, au bord des plages, le test de dépistage.
En espérant qu'il fasse beau. Et qu'il y monte sur la plage.
Oui, c'est pas bête, en ce moment. Mais pas pensé à ça. Parce que la France vit une drôle de période, Francis. Non, vous êtes vaincu ?
Non.
Il n'y a pas que ça. Hein.
Le beau temps finit toujours par arriver.
Je ne parlais pas du bon temps, je parlais de tout le reste.
Mais en France, actuellement,
vous êtes inquiet ou quoi ? Comme vous êtes un élu et...
Je suis nourri par un éternel optimisme. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas inquiet. C'est-à-dire que, bon, moi je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut revenir à la rigueur. En plus, c'est un fils de militaire qui vous parle, donc c'est facile.
D'accord.
Mais. Franchement.
Et PS, hein, vous êtes élu. PS.
Ah, ça.
Toujours, non ? Non, il se fait.
Je joue mon joker, là, sur cette question. On va dire que je suis en réflexion. Voilà.
Plus de rigueur. On a l'impression que. La France, ça envoie certains tubes. Ils ont parlé
de l'État. On est à la maison de vie.
Mais je voulais juste savoir.
Oui, mais monsieur le maire nous parle justement de cet atelier.
Mais il avait envie d'en parler, j'en étais sûr.
Non.
C'est son côté El Kabache.
Je vais chercher.
Je veux simplement dire une chose, c'est que on est des personnes qui avons la chance de voyager, la princesse aussi. Il ne faut pas qu'on soit regardé, la France, comme un pays qui ne soit pas assez rigoureux, qui ne soit pas assez attractif. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà.
Tout à fait.
Ça me gênerait beaucoup.
Mon cher Francis, est-ce que vous avez, Didier, une question à lui poser avant qu'il s'en aille ?
Justement, parler de Test in the City, est-ce qu'il y a des initiatives de ce genre dans le Vaucluse ? Je n'ai pas trop l'impression. Sur Carpentras, il ne me semble pas.
Dépistage rapide.
Non, mais effectivement, là vraiment, on va travailler sur cette question-là avec l'atelier Santé-Ville, avec l'accord de donatrice, et puis on va se mettre en relation. On peut organiser des choses comme ça, bien sûr.
Oui, parce qu'il y a le planning familial également sur Carpentras.
Qui est très efficace, effectivement.
Très actif. Donc, quelquefois, c'est la coordination des énergies de chacun qui permettent de voilà.
Oui, certains plannings font le TROD.
D'autant de mémoire, je pense qu'il y a une file active à Carpentras, qui est VIH, qui est à l'hôpital de Carpentras, qui est assez importante. Voilà. Et on croit que les zones reculées sont moins touchées que les zones urbaines. C'est pas toujours vrai aussi.
Voilà, c'était Francis Adol. Merci, mon cher Francis, d'être passé à la maison de vie. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci, Francis. On reçoit Pascal Motard, qui fait partie de Moto Isaïe Rider. Qu'est-ce que c'est que cette association ?
Bonjour à chacun.
Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ?
Bonjour.
Salut Pascal.
Alors, cette bête-là, effectivement, elle n'est pas trop répandue. Elle est répandue sur le secteur de Carpentras, aux alentours. Moto Isaïe Rider, en réalité, c'est Mire. Mire qui veut dire dans les pays de l'Est, paix. Donc voilà, c'est vraiment cette paix qui nous porte. Donc, on est un groupe de motards localement, là, à côté de Carpentras.
Vous êtes combien ?
Je ne réponds jamais à cette question.
D'accord.
Voilà, c'est, je crois c'est que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est ce qu'on
essaie de... Non, c'est juste pour savoir. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes.
On arrive à rassembler. Ça dépend des événements. On choisit un petit peu quel type d'événement on va faire. Justement, là, il y a 15 jours, on avait un événement un petit peu particulier avec une journée amicale, une balade. On était 80 à peu près.
C'est pas mal, hein.
Oui, c'est pas mal. Mais là, c'était un choix d'être un peu plus nombreux. En revanche, il y a 3 semaines, on a fait notre première collaboration avec la Maison de Vie. On a choisi, en revanche, de ne pas être nombreux. Justement, parce que si on était arrivé à 80 ou à 60 motos...
Qu'est-ce qui se passe? Tu refiles une moto à chacun? Vous allez faire une balade?
On aurait pu. Alors, bon, ce qui s'est passé, justement, il y a 3 semaines, je dis un petit peu l'origine aussi, c'est qu'il y a quelques années, la FFMC, Fédération Française des Motards en Colère, avait organisé avec la Maison de Vie une sortie, une première collaboration. Ça s'était pas poursuivi ensuite. Bon, nous, comme on fait aussi partie de la FFMC, on avait gardé en arrière-fond cette idée de collaborer, comme on est à quelques kilomètres de Carpentras, et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est l'esprit de notre groupe, hein, notre groupe motard, c'est de créer du lien, de créer de la rencontre, de la collaboration conviviale, amicale. Vraiment, c'est l'idée, c'est la rencontre. Voilà, on n'est pas là pour faire du bruit, mais voilà, dans le milieu moto, on a quand même cet esprit de la rencontre.
De la fraternité.
De la fraternité. Alors pour nous, ça a encore plus de sens, puisque comme le nom l'indique, pour nous, Moto is a Rider, on est un groupe confessionnel, donc il y a des gens qui sont chrétiens comme nous, ou sympathisants, hein, de toute façon.
Ça fait, ouais.
Voilà, on est tout à fait.
Alors c'est quoi, une journée, une balade en moto avec les résidents de la Maison de Vie, c'est quoi, vous partez toute une journée?
Alors on est parti effectivement toute la journée, on est venu, on a été accueillis très chaleureusement ici déjà pour commencer, ça a permis d'avoir un premier contact, une première rencontre. Ouais. Les résidents qu'ils souhaitaient on leur a donné un casque, blouson, voilà, ce qu'il fallait pour rouler en moto, parce qu'il n'était pas question de partir en short et en t-shirt, pas du tout. Voilà, ça se fait pas. Et donc voilà, une petite balade d'une heure et demie, pas trop longue, voilà, pas très loin d'ici. Et ensuite un pique-nique également. Super. Pas très loin d'ici. Voilà, avec un petit temps musical, une espèce de radio crochet.
Et surtout un moment de partage.
Voilà,
on est là ça. Dans le sens de la fraternité.
Ouais.
Ils sont venus frapper à notre porte. On a dit oui. En fin de compte, ça a très très bien fonctionné avec les résidents qui se sont dévoilés et qui ont échangé entre guillemets comme des frères.
Il y a eu un échange de cœur à cœur assez exceptionnel. Voilà, même les motards qui venaient pour la première fois, je pense à Serge par exemple qui est là aujourd'hui avec nous, on a bien vu effectivement qu'il se passait des choses de cœur à cœur, de personne à personne, directement.
Donc c'est possible.
Ouais. Mais bien sûr que c'est possible,
tout est possible,
sinon on ne serait pas là.
Merci mon cher Pascal, on l'applaudit les amis. On est en direct de la Maison de Vie pour un Jungle Fight exceptionnel. On revient dans quelques instants. À tout de suite.
Jungle Fight sur Radio Monaco avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Et oui, les amis, nous fêtons les 6 ans de la Maison de Vie de Carpentras. Nous sommes en direct, bien sûr, de la Maison de Vie avec toute l'équipe de Fight Heads Monaco et bien sûr, la Princesse Stéphanie. Je voulais, mon cher Franck, tu m'as dit, ouais, je parle jamais, toujours j'aurais parlé. Bon, tu veux parler, alors?
Oui, de David Beckham. Vous savez que David Beckham, bon, il a comme pas mal d'actions en dehors du football, enfin plus beaucoup de football d'ailleurs. Il vient de lancer du côté du Swaziland, c'est en Afrique, une nouvelle association qui s'appelle Seven, 7 en français, pour lutter contre la sécheresse et le VIH. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport
Mais quelle sécheresse tu veux?
Bah, tout simplement, il faut savoir quand même qu'au Swaziland, il y a 24% des enfants qui sont orphelins à cause du sida. C'est vraiment une hécatombe là-bas, c'est très compliqué. Et la famine et la pauvreté, eh bien, ça rend impossible de prendre les médicaments normalement, puisque ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires, et si on les prend avec des repas pas suffisamment importants, et ben ça peut être encore plus compliqué. Je rappelle quand même un chiffre en Afrique, selon l'ONU SIDA, 26 millions de personnes atteintes.
Réaction.
Mais c'est bien qu'il ait...
Ah, mais c'est vrai, parce qu'on nous avait parlé de ça. Enfin, je sais que la dernière fois que j'avais été au sommet de l'ONU SIDA, il y a 10 ans, la préoccupation majeure de la plupart des représentants des pays africains, c'était je veux bien leur donner les traitements, c'est très gentil, mais j'ai rien à leur donner à manger. Ouais. Donc, sachant que les traitements doivent être pris en mangeant, donc c'est vrai que là, il y a double problématique.
Ouais. Et justement, à l'ONU, Stéphanie vous adressait en disant, et surtout en parlant des générations futures, qu'au début du 21e siècle, l'humanité a éradiqué en quelques décennies et sans vaccin une maladie meurtrière qui aurait perduré des siècles dans un autre temps.
J'espère, je dis.
Oui.
Je n'ai pas dit que c'était fait. Hein.
Mais est-ce qu'on pourra éradiquer le sida sans vaccin? Est-ce que c'est possible?
Oui. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que tout le monde ait la même dynamique et la même envie de le faire. Et c'est tout. Donc après, l'ONU-SIDA, ils peuvent faire jusqu'à un certain point. c'est-à-dire faire des chartes, donner des indications, faire des programmes en sida. Mais si, dans certains pays, c'est une autre problématique. Moi, ce qui me met en colère, c'est que des pays dits développés, comme la France, comme même l'Italie ou les États-Unis, qui ont les moyens de faire de l'information et de la prévention, ne le font pas. Et de tester les gens et de les mettre sous traitement, et ils ne le font pas. Et que des pays qui n'ont pas les moyens de le faire ont envie de le faire, comme les pays africains, comme l'Afrique du Sud, qui fait des programmes maintenant incroyables où ils arrivent à diminuer les nouvelles contaminations de 50%. Enfin, ils ont une dynamique, ils ont envie de le faire. Et des pays qui auraient envie de le faire n'ont pas les moyens de le faire parce qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'ils n'ont pas d'eau potable, parce qu'ils ont même le système de santé de base n'est pas là. Alors que nous, on a tout et on ne fait rien. Donc c'est ça que moi qui me met en colère.
Voilà. Voilà.
Ça y est, j'ai poussé mon coup de gueule.
Eh ben, c'est bien, on va mieux, c'est bien. Tiens, on va reprendre une cerise.
Ouais.
Oui, Hervé.
Oui, non, je vais dire, et plus on dépistera, plus on découvrira de nouvelles personnes contaminées qui ne le savaient pas et seront mises sous traitement. Et c'est ce qui permettra d'atteindre cet objectif de 2030 pour éradiquer le VIH.
À mon avis, je vais pas être pessimiste, mais 2030, c'est quand même vachement proche.
Ça va faire juste.
C'est très proche.
Ça va faire juste. On accueille Henri. Henri de la Maison de Vie, mon cher Didier. Qui est Henri?
Henri est venu, un résident qui est venu au séjour du mois de mai.
Oui.
Et qui a été orienté par son médecin au centre hospitalier d'Avignon.
Tout à fait.
Parce que tu étais, comment, tu te trouvais fatigué, puis tu combats à la fois le VIH et
le cancer.
Voilà.
Donc, j'ai eu un très beau cadeau de Noël en 2014, en apprenant que j'avais un cancer des poumons. Donc,
t'es un grand fumeur.
Oui, je suis un fumeur, mais je crois pas que ça soit.
C'est pas lié.
Non, c'est pas lié. C'est vrai que ça serait beaucoup plus lié à la solitude, à
le stress,
le stress, à apprendre des langages qui sont des langages bien particuliers, le langage du médecin traitant, le langage du médecin d'hôpital, ce qu'ils veulent dire, comment on peut leur dire, comment débattre avec eux quand ils ont un temps qui est très très limité pour chaque patient. Par contre, la chance que j'ai eue, c'est découvrir une maison.
La maison de vie, ouais.
Construite par Stéphanie.
Et tu l'as découverte comment?
Qui peut deviner?
Qu'est-ce qui va nous sortir? Comment tu as découvert la maison de vie?
Par quelqu'un qui habite pas très loin dans la rue et qui est l'adjoint de mon comptable.
Ah bah tu vois, ah, t'as un comptable en plus.
J'ai un comptable en plus parce que j'ai aussi une, je suis désolé, une SAS qui s'appelle une société en action simplifiée. Donc,
d'accord.
Qui est bon. Et tu connaissais pas la maison de vie, pourtant tu t'es très proche.
Absolument pas. Je n'en avais jamais entendu parler.
D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé alors l'envie de venir?
J'étais au fond du trou. J'ai été soigné à l'époque à l'hôpital d'Avignon. Je pesais 63 kilos. J'étais sous morphine. Je suis arrivé, on était deux garçons en 2006 à Pernes-les-Fontaines. Je me suis retrouvé tout seul en 2009. 2009, éloigné de ses amis, de sa vie. À 5 heures du soir en hiver, quand il fait nuit, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. C'est pas très facile de se lier avec des gens. Mais enfin, je suis resté ici et j'ai créé cette petite société pour aller jusqu'à ma retraite et essayer de mettre ma main un peu au patrimoine.
C'est la solitude ou l'état physique qui vous a motivé pour venir à la maison de vie?
Les deux. Les deux. Et surtout le fait que je suis venu, comme on a parlé, et j'ai été merveilleusement accueilli. Il y a une sorte de déclic qui s'est fait. Je ne sais pas comment expliquer tout ça, mais enfin, ça m'a donné l'envie, j'étais reçu, j'ai donné aussi envie d'être reçu.
Bien sûr. Henri, ici. Pendant combien de temps? Là, c'est ton premier séjour, le deuxième?
C'est mon premier séjour qui a eu lieu en mai.
D'accord.
Qui est très très rapide. Grâce à nos sublimes cuisinières, j'ai repris 12 kilos.
Voilà.
Donc, quelque part, je suis guéri de mes kilos et surtout de mon cancer. J'ai toujours vécu un peu en dehors du sida. Je suis séropositif depuis plus de 20 ans.
Henri, mon cher ami, vous restez, s'il vous plaît. Audrey va nous rejoindre aussi dans quelques instants. On est en direct de la maison de vie. Oui, oui. Il est absolument 17h30. En direct de la maison de vie tout de suite. Le Flash avec Camille Chapuis.
Jungle Fight sur Radio Monaco avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Oui, pour les 6 ans de la Maison de Vie de Carpentras, les amis, avec l'excellent directeur Didier, mon cher ami. Est-ce que tu as prévu des choses cet été pour les résidents?
L'été, je suppose qu'il va, tout est complet déjà pour tout l'été, non?
L'été, c'est les séjours famille. Hein. C'est toujours important de recevoir les familles pendant la période des vacances scolaires. Donc oui, le séjour est complet d'ailleurs du séjour famille.
Tout est complet déjà.
On a toujours plaisir de recevoir l'été sur les vacances scolaires ou sur Noël ces familles qui sont très souvent monoparentales et très souvent aussi là dans l'isolement.
Vous avez des fois aussi des grands-parents qui viennent?
On a eu des grands-parents, oui, qui ont accompagné de leurs petits-enfants. Tout est possible à la maison de vie.
Tous ces ateliers donc, qui sont prévus pendant l'été, pendant l'ensemble de l'année, vous les choisissez comment au final? Vous faites des tests? Vous faites des auditions?
On travaille à la confiance et à l'expérience. Je veux dire que quelqu'un vient me voir pour en souhaitant animer un atelier. Si ça rentre dans la perspective du bien-être, de la qualité de vie, c'est-à-dire les ateliers corporels, les ateliers créatifs, ou tout ce qui tourne, ce qu'on va appeler dans quelques temps les parcours santé, c'est-à-dire autour de la nutrition, autour de l'activité physique, autour des approches complémentaires. Il faut savoir que les personnes VIH prennent, en dehors de le traitement, un tas de comprimés et certains pourraient être remplacés par des choses beaucoup plus douces. Bref. Donc, si les personnes viennent me voir, quelquefois, moi, je peux dire banco, on expérimente pendant 3 mois. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, bah, le deal est levé, quelque part. Mais on a besoin aussi du renouvellement que nous apportent les intervenants extérieurs. Ils nous apportent leur éclairage. C'est hyper important. Il ne faut jamais vivre professionnellement en circuit fermé. Et quelquefois, j'ai même l'impression que le milieu du VIH vit en circuit fermé. Il y a des choses qui se passent dans le cancer, il y a des choses qui se passent dans d'autres pathologies qui pourraient nous être utiles et dont il va falloir qu'on capte les informations.
Et qu'on communique. C'est pour ça que la princesse Stéphanie était d'accord pour faire une émission de radio depuis 8 ans maintenant.
Et oui.
Nous, à Monaco, on a la chance d'avoir une personne qui s'occupe dans le service du cancer et nous avons mis en place une activité qui s'appelle la marche dynamique et c'est une dame qui intervient dans le service justement de prise en charge du cancer au CHPG.
Voilà.
Donc là, il y a un pont et...
Avant de passer au blind test, les amis, sur les années 80, je vous rappelle, le très beau concert, ce sera...
Le 16 juillet.
Le 16 juillet, voilà. Beau concert, les années 80, dans 2-3 minutes. Mais là, nous accueillons Audrey, qui anime un atelier de préparation au départ. Ben, ça va être gai encore, tiens.
C'est-à-dire,
gens qui vont quitter la maison de vie. Psychologiquement, tu les prépares à retourner.
Alors, moi, je ne les prépare pas. Je pense que c'est eux qui se préparent à l'issue de tout ce périple, en fait, de tout ce séjour.
Je suppose que personne ne veut partir, non?
Non, je crois que ça dépend des histoires et des individus. La fin, c'est pas nocif. La fin, c'est aussi quelque chose qui peut me permettre de redémarrer et de passer à autre chose. Pour moi, les ateliers de départ...
Comment ça se passe? Tu les réunis un par un?
Non, alors ils sont un collectif, ils sont libres. Ils sont libres de venir. L'objectif, c'est d'identifier ce qui a été bon pour moi dans cette expérience vécue et ce qui n'a pas été bon. C'est vraiment important de dire aussi quand c'est pas bon. C'est bien, mais là ça a été moins bien et de porter l'attention. Tiens, qu'est-ce que ça a fait en moi, cette expérience? Je crois pas qu'on arrive dans un séjour comme ça à la maison de vie sans que ça ait un impact sur mon vécu.
On peut parler d'ancrage, petit peu de ce qui est de positif et de ce qu'ils peuvent ramener chez eux.
Complètement. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette expérience, de tout ce que j'ai pu vivre, acquérir, des rencontres que j'ai pu faire? Porter le regard, mais c'est vraiment porter un regard sur l'intériorité. Et puis de là, comment je redémarre? Comment je regarde ma vie et comment je vais la réorienter?
Et de laisser peut-être ici les petits comme dans tous les séjours.
Oui, parce que c'est vraiment...
Il y a forcément des moments un peu de creux ou de... Peut-être de difficultés parfois. Ouais. Hein.
Audrey, qu'est-ce que tu vas dire par exemple?
Je vais juste rebondir pour conclure. Vas-y. Effectivement aussi pouvoir dire, là c'était pas bon pour moi et c'était pas bon pour moi pour telle et telle raison. De pouvoir l'identifier, c'est pouvoir commencer à construire.
Qu'est-ce que tu vas dire à Henri qui est à côté et qui veut plus partir lui?
Moi je vais rien lui dire. Je vais simplement l'inviter à exprimer pourquoi il a plus envie de partir qu'est-ce qu'il peut faire du coup même en partant. Il craint rien, quoi, parce que c'est là et c'est à l'intérieur de lui.
Il n'est pas parti. Audrey, alors pour animer ce type d'atelier, quelle formation?
Alors moi, je suis somatothérapeute de formation initiale ou psychothérapeute à médiation corporelle. C'est-à-dire que pour moi, le corps est toujours un support de travail. Mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment le cheminement en conscience. l'âge vit sain, quel est le contexte. L'individu, il est toujours mobilisé à la fois par sa psyché, ses affects, ses émotions, sa réalité professionnelle, personnelle. Et dans cette dimension complètement holistique et globale, ben, il faut apprendre à vivre avec ces mouvements-là.
Ouais, Audrey, par rapport aux gens qui sont autour de cette table, est-ce que tu arrives à analyser les personnes
non.
qui sont
adaptées? Non, non, sûrement pas,
peur.
Non.
Il a peur.
Mais toi, c'est chose. Trop tard. Toi, on ne peut plus t'analyser.
Il a peur.
Tu ne vas pas analyser Franck Herman parce qu'on ne sait pas quoi en faire.
Je ne sais pas pourquoi je me posais la question aussi. Je me disais, on va me pointer du doigt.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que Audrey vient en complément du travail qu'effectuent les accompagnants.
Ça, c'est vraiment...
tout au long du séjour. Et on a voulu clôturer ce séjour par une personne neutre.
Voilà, c'est bien que tu soulignes ça. Je crois que c'est important.
Voilà. Et maintenant, c'est l'heure du blind test, les amis. Il y a un grand concert à Monaco le 16 juillet. Et je vous propose d'écouter des sons des années 80 aussi, 90. Reconnaître l'artiste ou la chanson. C'est parti, on y va.
Bon.
Bon. Qui c'est qui trouve? Personne ne trouve, là? Evelyne Thomas. Dis-moi, c'est pas la...
C'est mon choix.
C'est mon choix. Non, c'est pas celle de... Non, c'est pas... C'est mon choix, c'est pas vrai. Parce que là, on n'a plus le choix.
Hein. Je veux pas la voir dans la robe qu'elle avait, elle. C'est Evelyne Thomas, c'est sûr.
Elle a une robe en...
Elle rentre pas dedans.
En cuir. Et voilà. Bon, bah, c'est pas terrible. Il va nous mettre autre chose. Et blind test, s'il vous plaît, en direct de la maison de vie. C'est quoi, ça?
Oh, c'est facile. C'est des Suédois.
C'est des Suédois, ça?
Non, pas Abba.
Henri, tu connais?
Non, c'est Ace of Base.
Ah
Base.
Ouais, c'est Ace of Base, ça, enfin, voyons.
Écoute.
Henri, t'écoutes de la musique, non? Ouais, t'écoutes Led Zeppelin, toi?
Un peu plus classique que ça, en général.
Un peu plus classique. Le blind test continue, les amis. C'est qui, ça?
C'est 90.
C'est bien. Donc ça, c'est 90. C'est ça, Robin S. Bon, on a tous perdu. Hein. Il n'y aura pas de tir gratuit ce soir. C'est fini. Hein. On écoute encore un petit blind test, les amis. Ah. Ça, c'est des Suédois. Voilà. Et Stéphanie qui chante et qui connaît les paroles par cœur. Eh ouais. Take On Me par le groupe. Ah, n'est-ce pas?
Ah.
Et ils existent toujours, paraît-il. Ah. Allez, on s'en fait un petit encore? Allez.
Les Bee Gees.
Ah, ça, Hervé, il connaît.
Oui, parce que c'est la banque 80.
Eh ouais. Non, parce que Hervé, il sait très bien faire la danse de John Travolta dans Saturday Night Fever.
Tu veux nous faire un test, là?
Oui.
Non, non, garde ton
c'est
pantalon.
Bon. Il n'y a pas de télé, c'est bon.
Je vois bien Hervé en train de faire.
Et Didier, ça lui rappelle les Folies de Bangkok. Bon, on en parlera. Est-ce qu'il nous en reste encore un? Oui. Ah ouais.
C'est George Benson. George Benson, merci.
Bravo. George Benson, c'est la princesse Stéphanie, s'il vous plaît, que du lourd. On en a encore un petit? Oui.
Ah, The Rhythm of the Night.
The Rhythm of the Night.
The Rhythm of the Night.
Comment s'appelait-il?
Hervé, ça te rappelle les Folles Nuits du Palace?
Oui, ça me rappelle, mais je ne sais pas qui c'est.
Corona. Comme la bière.
Non, pas de pub, s'il vous plaît. Oh non, c'est pas bien, ça. Bon, merci. C'est tout, c'est fini? Oui, c'est fini. Oui. Merci, ma chère Audrey. Merci, Henri, d'être passé. Retour de la vraie musique des années 2016.
Mais c'était de la vraie musique, les années 80.
C'était vachement bien.
Ah, c'était mieux ce qu'ils ont fait dans les années 80.
Bah oui, quand même.
T'as vu, c'est indémodable.
C'est vrai qu'il y avait plus de mélodies qu'on on écoute encore, ça. Beaucoup de gens achètent ça encore.
Ouais. Ouais.
On rappelle, le gala d'été le 16 juillet à Monaco.
Oui, au Sporting.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Oui, un Jungle Fight absolument exceptionnel, puisque nous fêtons les 6 ans de la maison de vie de Carpentras, les amis. Mon cher Hervé, tu voulais me dire quoi?
Ce que je voulais te dire, c'est que nous n'avons pas parlé de la visite de la princesse à New York, à Housing Works. C'était un moment fort.
Ça, on ne savait pas, Stéphanie. On savait à l'ONU, oui, mais...
Oui, non, Housing Works, oui.
On avait reçu le président d'Housing Works
l'année dernière.
Ouais.
Oui, non, c'était un moment très fort et très intéressant, parce qu'on a vu en fait le truc d'origine de Housing Works dans un quartier assez difficile de Brooklyn.
C'est l'équivalent de la maison de vie là-bas?
Non, c'est pas l'équivalent. Je me suis inspirée de Housing Works pour créer la maison de vie, c'est-à-dire que l'adapter. On parle des États-Unis, on ne peut pas faire du copier-coller avec une structure américaine. C'est pas possible. Là, les résidents sont là en permanence. Il y en a qui sont là depuis des années. Oui. C'est vraiment un système de relogement et de redémarrage dans la vie, mais qui est permanent, quoi. Enfin, il y en a qui partent, mais rarement. Oui.
La dame qui a parlé, elle était là depuis 96, je crois.
Oui, rarement.
Comme, la maison de vie bientôt, Stéphanie, à Carpentras. Oui, ce sera une tour ici dans 20 ans.
Oui, non, mais c'est le même concept. C'est-à-dire qu'ils ont une salle à manger commune, ils ont chacun leur petit appartement, ils peuvent se faire à manger chez eux. En fait, c'est le concept d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH qu'on a essayé de reproduire ici, mais à notre échelle. Et avec nos compétences. Là, il prend en charge des ex-détenus, des gens qui ont encore des addictions, chose que nous ne faisons pas. Et ils ont même, à l'intérieur de la maison, un programme pour justement se débarrasser des addictions, surtout à la drogue ou à l'alcool. Donc ils ont tout un programme avec des psychiatres, des assistantes sociales. C'est énorme, c'est lourd, je veux dire. Mais bon, eux, ils sont financés, ils ont des boutiques de friperies, de machin, de tout pour financer leurs choses. C'est à l'échelle américaine. Donc après, c'est juste le concept de prendre en charge psychologiquement, émotionnellement et d'aider des gens vivant avec le VIH. Nous, on n'est pas là pour leur donner un toit et leur donner un boulot non plus. Le principe est le même, mais dans le fond, c'est pas du tout la même chose, quoi.
Tout à fait. Ok, Stéphanie, on reçoit Nadine Nedelec, assistante sociale. C'est ça, bon?
Assistante sociale à Marseille, qui oriente plusieurs résidents, dizaines de résidents par an.
Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que disait Stéphanie, même si la maison de vie ne permet pas d'avoir, évidemment, accès à un travail ou accès à des revenus supérieurs, à un logement, etc., la maison de vie permet quand même de rebondir et aux personnes de pouvoir se poser des questions et de réfléchir à comment reconstruire leur chez-soi, enfin, de façon un peu moins aliénante et moins difficile que ce qu'ils vivaient au quotidien. Faut savoir que 85% des personnes séropositives au VIH sont seules, donc elles souffrent de solitude et le fait de venir ici, ça rompt.
Ils sont abandonnés par leur famille, par leurs proches.
Souvent, pour certains d'entre eux, ça reste très stigmatisant d'être VIH positif aujourd'hui. Et en fait, les personnes retrouvent ici quelque chose.
Pour vous, en tant que professionnel, la maison de vie est une aide dans l'accompagnement que le suivi vous faites des personnes.
Tout à fait, parce que quand je leur parle de comment améliorer leur quotidien, comment améliorer leur situation, financièrement, je peux solliciter FightEds, qui rebondit toujours bien et qui aide vraiment les personnes confrontées à des problèmes sociaux importants, financièrement surtout. Et la maison de vie permet de travailler avec moi dans comment faire pour que ça se passe bien chez soi et mieux.
Ce que vous dites aussi, nous, FightEds Monaco, nous aidons effectivement sur des aides, mais ce sont des aides ponctuelles. Donc des fois, il suffit d'un petit coup de pouce pour permettre à la personne de s'en sortir, parce que nous n'avons pas non plus des moyens qui nous permettent de répondre à toutes les demandes et pas à la demande complètement. Donc ça veut dire que c'est une partie d'aide.
Mais tout à fait, ce coup de pouce, ça peut être fondamental. Mm-hmm. Dernièrement, le coup de pouce qui a été donné par FightEds, ça a permis à la personne, mais vraiment, d'être un peu plus léger dans sa problématique financière qui était très très lourde et de, ben voilà, un sas quoi. Un sas où il respire et...
Et lorsque vous proposez à vos... Alors patients,
à les personnes
que vous avez en face de vous, que vous leur proposez cette maison de vie, est-ce que pour eux c'est facile de venir ou vous devez expliquer ou... Parce qu'il peut y avoir des fois des... Est-ce qu'ils pensent que c'est une maison de repos ou ils ont déjà une connaissance de milieu où ça s'est pas forcément bien passé?
Alors, dès le départ, je leur dis que toute façon, il n'y a pas de prise en charge CPAM. Donc forcément, c'est pas une maison de repos telle qu'ils l'imaginent. C'est un lieu où on peut être soi et réfléchir à soi et avec d'autres qui sont aussi séropositifs et qui partagent pas la même situation. Évidemment, personne n'est identique, mais en tout cas, un lieu de rencontre. Et
quand ils reviennent, alors ils vous expriment leur reconnaissance, leur satisfaction.
Tous, ils veulent qu'une chose, c'est de repartir. Je leur dis, mais attendez, il faut déjà rebondir sur ce que vous avez vécu ici et améliorer votre quotidien pour pouvoir reproposer votre candidature. C'est le seul établissement en France, donc forcément, et en Europe, donc forcément...
Il y a foule.
Ce qui est intéressant, c'est avec Nadine ou avec d'autres intervenants qui nous orientent les personnes, c'est que c'est un vrai travail de coordination. Mm. C'est-à-dire que le travail qu'on essaye de mener de reconstruction, il s'intègre en continuité du travail ou en amont ou en aval, mais il y a toujours un lien et on ne laisse pas quelque part les résidents repartir tout seuls. Lorsqu'ils sont accompagnés, il y a toujours quelque chose qui est fait pour que le travail se poursuive.
Merci, ma chère Nadine.
Merci à vous et merci à la princesse Stéphanie. Merci. Pour la générosité.
Un petit applaudissement quand même, là, ça fait du bien. Et pour finir cette belle émission, on a appris beaucoup de choses ce soir, vraiment. Hein. Salut Frédéric Platini de la Croix-Rouge de Monaco. Salut Frédéric, on était déjà ensemble il y a un mois, deux mois.
Ah, on se voit un peu trop.
Un mois. Ben oui, je trouve. Hein. C'est la première fois que tu viens ici.
Oui, c'est la première fois. J'ai beaucoup entendu parler, j'ai loupé pas mal de déplacements, ce qui m'a valu quelques critiques. Mais... Non, mais c'est un
Hervé
peu comme...
Quand même.
C'est Hervé, oui. Mais c'est un peu comme je le voyais. C'est une belle maison authentique et on s'y sent bien.
Pas déçu.
Non. J'ai même testé la table de ping-pong, elle marche bien, donc pas déçu. Je me sens bien ici.
Bon, bah t'es prêt pour un séjour, alors.
Je suis prêt pour un séjour et d'accord. Je suis toujours prêt à écouter les demandes de Fightet si Fightet veut améliorer encore ce qui est difficilement améliorable. Ça me rassure un peu parce que
qu'est-ce
je vois pas grand-chose.
Qu'est-ce qu'on peut améliorer ici,
qu'est-ce qu'on peut améliorer encore ?
Il y a plein de choses.
Ah, j'ai vu les vélos.
Vas-y.
Oui.
Ah oui ?
Mais c'est pas nouveau.
Ah oui, bah non, mais effectivement, c'est aussi une belle initiative.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, Didier ? C'est le moment, là, avant qu'on se quitte.
Non, mais on en parlera plus tard. Ouais. Il y a toujours des adaptations de la maison, parce que la maison s'adapte tout le temps, en continuité.
C'est vrai ? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter Frédéric ?
Je la trouve très bien, cette maison.
Ouais. Oui, elle est bien. Elle est encore très belle. Pour 6 ans de vie d'une maison, d'un lieu public, qui reçoit du public diversifié et qui n'est pas là très longtemps, la maison est en très bon état. Les chambres sont impeccables.
Aucune dégradation.
Ça fait rien, on revient demain, si tu veux.
Non, on sent qu'il y a beaucoup de respect et beaucoup d'attention pour la maison.
On va se quitter, les amis. Et on va bientôt se quitter. L'émission est finie. Ça a été très court. C'était un jungle fight absolument exceptionnel pour les 6 ans de la maison de vie. On remercie tout le monde ici, toute l'équipe de Fightet Monaco. Merci Stéphanie.
Merci Malheur.
On se revoit très vite. Hein.
Oui Malheur.
Oui, mais on se quitte plus. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci. On retourne à Monaco tout de suite.
Merci.
Ciao.
Merci Malheur. C'était Jungle Fight. À retrouver très vite en podcast, en replay.